qui me fait marcher dans la vie, je pense, c'est de me faire plaisir à essayer de découvrir et d'en savoir plus sur la nature, disons. Et à être heureux, finalement, essayer de maximiser au mieux possible en faisant ce qui me plaît.
Bonjour, en compagnie de Bernard Talet, membre de la Société d'Astronomie de Nantes, nous accompagnons dans la rue Marc Huertas Compagnie. Marc Huertas Compagnie est intervenu dans le cadre des conférences de la SAN sur le thème « Les galaxies à l'heure du Big Data et de l'intelligence artificielle ».
Je pense que comme beaucoup d'astronomes, c'est une vocation initiale. Pour moi, je pense, mais je n'ai pas beaucoup de souvenirs, mais mes parents me disent que ça a débuté à 5 ans. Et en fait, ma première nuit blanche, je l'ai faite à 5 ans, par volonté propre, pour voir une éclipse de lune avec mon père. Je ne sais pas pourquoi, ça vient comme ça, et c'est une passion. Alors moi, j'ai fait des détours, etc., mais au final, je suis arrivé là. Voilà.
Et vous avez pensé vos études, c'est aussi le hasard?
C'est pas le hasard, j'avais toujours une idée de continuer, de faire de la recherche en astrophysique, je pense. Après, la vie pousse dans différentes conditions, donc moi j'ai fait plutôt des études d'ingénieur au début, un peu aussi poussé par la pression, par la famille, je sais pas. Mais toujours avec cette vocation de me tourner vers la recherche. Heureusement pour moi, je dirais, pour moi ça a bien tourné. Parce que bon, on ne sait jamais, les études, parfois on se met dans une chose et on se lance dans quelque chose et au final, ça peut durer plus longtemps, on cherche un travail, etc. Et au final, c'est difficile d'aboutir où on voulait y aller. Pour moi, bon, j'ai commencé les études d'ingénieur, mais très vite, j'ai fini mes études et je me suis embarqué dans l'astrophysique. Et j'ai pu me convertir comme ça et ça a bien marché. Le résultat, c'est que maintenant, justement, je fais une espèce de recherche pluridisciplinaire. Au final, c'est une richesse, où je combine un peu des techniques d'ingénieur, de type l'intelligence artificielle, etc., avec l'astrophysique. Donc ça me laisse une petite trace de mes études et aussi un coloriage un peu différent qui me permet aussi de faire une recherche un peu originale. Disons.
Le fait de vouloir comprendre le monde, ça aide quand on est élève à apprécier les mathématiques et la physique? Ou alors vous étiez déjà doué naturellement pour ces deux matières?
Moi, je ne me suis jamais posé la question, c'est juste... je pense que chez moi, c'était naturel. Physique, mathématiques, j'ai toujours aimé, et ça venait naturellement. Je n'ai jamais senti que je faisais un effort, mais jamais dans mes études, finalement. Je n'ai jamais senti que c'était un effort ou quelque chose qui me... Effort, si, parce que je travaillais, mais je n'ai jamais senti ça comme une souffrance. Sinon, c'est comme, au contraire, c'est comme le plaisir d'apprendre. Et j'ai jamais eu rencontré de grosses difficultés, j'ai cette chance-là. Donc je ne sais pas si c'est mené par la volonté de comprendre mieux la nature ou c'est juste comme ça. Je sais pas, il y a des enfants qui aiment des choses, d'autres aiment d'autres choses. Et pour moi, les mathématiques et les études, c'était quelque chose qui était comme ça, en fait.
Titre de votre conférence, les galaxies à l'heure du big data et de l'intelligence artificielle. Comment vous définissez l'intelligence artificielle?
Déjà le titre de la conférence, je me suis rendu compte maintenant en préparant que c'était extrêmement ambitieux. Donc bon, on va peut-être le réduire un peu, mais l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup maintenant. Et donc c'est un mot qui veut dire beaucoup et pas grand-chose en même temps. Donc, l'intelligence artificielle, je dirais, c'est essayer de créer des machines qui arrivent à faire des choses qui, normalement, sont, ou on pensait, réservées au cerveau humain. Et c'est comme ça qu'on comprend l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est extrêmement vaste, parce qu'il y a plein de choses que le cerveau humain peut faire. Et prétendre que les machines vont pouvoir tout faire, je ne sais pas. Mais pourquoi on en parle beaucoup maintenant? Parce qu'en ce moment, il y a une petite révolution qui se passe. Et des choses traditionnellement qu'on pensait qui était exclusivement réservé au cerveau humain, on se rend compte que finalement les machines sont capables de le faire. Et c'est des choses simples, comme par exemple dire dans une image s'il s'agit d'un chat ou d'un chien, c'est quelque chose que le cerveau humain fait avec une extrême facilité, même un enfant de 3 ans. Mais jusqu'à il y a quelques années, une machine était incapable. Et maintenant, ça marche. Donc c'est cette petite révolution qui a un peu fait que l'intelligence artificielle est dans la bouche de tout le monde et que finalement ça rentre aussi, comme dans beaucoup de disciplines, dans l'astrophysique.
Mais dans le fond, ce sont des gros calculateurs de plus en plus performants avec tout un système de règles ou d'algorithmes qui gèrent ces informations, mais ça n'a rien d'intelligent, c'est plutôt un automatisme.
Alors, pour l'instant, c'est vrai que c'est encore, je ne dirais pas c'est juste des gros calculs, ça reste quand même dans l'automatisme, c'est-à-dire ça essaie de reproduire en utilisant une base de données suffisamment grande, apprendre directement. Mais c'est vrai que ça, pour l'instant, ça n'a rien d'intelligent. Par contre, ça ouvre une porte. Disons que c'est le début de quelque chose qui, pendant beaucoup d'années, est resté sans trop de progrès, dirais-je, si je ne m'abuse pas. Et qui, maintenant, on voit une ouverture, en fait. On a trouvé des solutions qui, avant, n'existaient pas. Et ce n'est pas justement c'est pas seulement la puissance de calcul, mais en partie, oui. Et je dirais que c'est un début. Alors, évidemment, ça n'a pas. Et vous avez raison quand vous dites que ce n'est pas vraiment intelligent. Et c'est pour ça que je ne soutiens pas du tout tous ces discours apocalyptiques qui arrivent, qu'on entend maintenant, en disant voilà, l'intelligence artificielle va se rébeller contre les humains, etc. On n'est pas encore là, évidemment.
Concrètement, dans le domaine qui est le vôtre, de l'astrophysique, quels sont les outils ?
L'astrophysique est en ce moment en train d'expérimenter une révolution en termes de volume de données et de complexité de données. C'est-à-dire, dans les 10-15 dernières années, en particulier en ce qui me concerne dans le domaine des galaxies, on a multiplié par un facteur, plusieurs centaines, le nombre de galaxies qu'on peut observer. Et évidemment, cela pose un problème pour le traitement de ces données. On ne peut plus les faire d'une façon, disons, artisanale à la main. Il faut avoir des outils qui permettent de le faire ça. Et ça va depuis les éléments de base, c'est-à-dire extraire les formes des galaxies. Je m'en occupe particulièrement, à d'autres phénomènes comme les distances, etc. Donc ces outils d'intelligence artificielle sont évidemment assez performants pour faire cela. Et ils vont inévitablement rentrer dans l'astrophysique comme ils rentrent dans beaucoup d'autres domaines. Et c'est une question effectivement de volume de données qui se multiplie. Et les 10-15 prochaines années, ça va être encore plus violent.
Ce sont des gros ordinateurs ou plein d'ordinateurs connectés ?
Qui font les calculs. Il faut distinguer un petit peu, là je parle plutôt des données observationnelles. Donc effectivement, c'est beaucoup d'ordinateurs qui font les calculs, mais ce n'est pas tellement une question de puissance de calcul. Effectivement, il y a le problème de la puissance de calcul et du stockage des données, parce qu'on produit maintenant, et par exemple dans les missions qui vont arriver d'ici 5-10 ans, on va produire plusieurs terabytes de données par nuit. Il y a le problème du stockage, évidemment, mais c'est plus l'impossibilité, disons, de traiter ces données d'une façon manuelle. C'est-à-dire si on produit plusieurs terabytes de données par nuit, il faut quelque chose raisonnablement intelligent qui soit capable d'extraire l'information qu'on souhaite. Et c'est ça l'origine de ces algorithmes, je dirais.
Vous vous servez à quoi ?
On sert à quoi dans cette...
C'est la machine qui fait tout le boulot.
C'est ça le danger. Non. Comme vous l'avez dit au début, les machines ne sont pas complètement intelligentes encore. Et c'est à nous de lui dire ce qu'il faut chercher. Mais ça, et vous soulevez une question intéressante, parce que et j'en parlerai peut-être dans ma conférence, ça soulève une problématique, parce que finalement, on a des terabytes de données, des volumes incroyables de données, on n'est pas évidemment pas capable de les regarder, on n'est pas capable d'avoir des gens, des êtres humains, des physiciens en train de regarder ces données, et il faut se confier à des machines qui vont essayer de trouver des éléments intéressants dans ces volumes de données. Mais le problème, c'est que ces machines, c'est nous qui leur avons dit de chercher ce qu'on sait déjà. Donc est-ce que, et beaucoup de découvertes dans le domaine de l'astrophysique, elles se passent dans l'inconnu, dans l'inattendu, c'est-à-dire le hasard qu'on ne s'attendait pas. Alors est-ce que ces machines qui vont regarder les données vont être capables de retrouver l'inconnu, l'inattendu ? Et ça, c'est le gros challenge, c'est-à-dire essayer d'entraîner ces machines pour, disons, mettre dans une boîte tout ce que, j'attendais, et sélectionner parmi ces volumes inconsidérables de données les choses qui disent, voilà, ça requierrait un être humain pour le regarder. Parce que, j'ai jamais vu un truc comme ça. Alors ça requiert un peu d'intelligence, et c'est pas encore résolu. Mais c'est, je pense, un des gros challenges.
Vous pouvez induire la machine en erreur.
On peut induire la machine en erreur, évidemment, parce que c'est finalement, elle est entraînée par les connaissances ou ce qu'on s'attend. Et effectivement, ces machines qui maintenant font la une de beaucoup de journaux, qui est extrême, par la performance qu'elles acquièrent, elles sont aussi très facilement trompables, disons. Je veux dire, c'est pas si c'est correct, mais... Et là, j'ai récemment lu un article où justement, ces machines qui maintenant reconnaissent les formes de n'importe quelle image, on peut dire ce qu'il y a, l'objet qu'il y a dans l'image, avec une performance inouïe. Par exemple, on peut très facilement les tromper en juste collant un autocollage sur toutes les images le même. Elle va dire à 99% de chance que toutes les images qu'elle voit, même si c'est un chat ou un chien, c'est un grippin. Donc elles sont très performantes, mais on peut les tromper facilement. Et détecter ces erreurs, c'est ça qui est aussi très très difficile. Donc il y a des risques.
Mais jamais, en tout cas pas pour le moment, la machine sera en capacité de pondre une théorie nouvelle.
Non. On est encore loin de là. Par contre...
Mais à l'idée d'eux, non ?
Même à l'idée, ouais. Mais par contre, elle peut essayer de se trouver des traces... Oui, on n'est pas encore là. C'est une belle idée, mais on n'est pas encore là. Ce serait idéal, effectivement, si on pouvait lui donner toutes les données qu'on a, de mesures, de vitesse, par exemple, autour de planètes dans le système solaire, et qu'elle ponde directement la théorie de Newton. On n'est pas encore là.
Jusqu'à quel point est-on capable d'apprendre à ces machines à détecter une anomalie ? Je parle d'une anomalie par rapport à ce qu'on connaît, bien entendu.
Voilà. Alors ça, je n'ai pas la réponse, c'est un champ qui est extrêmement ouvert. Et moi, je suis astrophysicien, je ne suis pas chercheur dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais je travaille avec des gens qui le font. Et je sais que c'est un débat qui est ouvert, parce qu'on en a besoin pour plein de choses. Par exemple, ces machines sont utilisées beaucoup en médecine. Et médecine, on connaît plein de maladies, mais il y a des maladies qui ne sont pas répertoriées, qui finalement sont des... Et si on passe à côté de ça parce qu'on a fait de façon automatique, c'est grave. Donc cette idée de détecter des anomalies ou de l'inconnu est quelque chose qui se développe. Donc il y a des idées, mais il n'y a pas de solution pour l'instant que je connaisse qui soit, disons, stable. Donc, voilà.
Qu'est-ce qu'on a pu découvrir, observer aujourd'hui qu'on n'aurait pas pu hier ?
Dans l'astrophysique en particulier, ces techniques sont extrêmement récentes. Donc on commence juste à les utiliser maintenant. Donc je dirais qu'il n'y a pas de découverte fondamentale qui a été faite par l'intelligence artificielle ou les machines encore. On est capable de faire des choses... qu'avant on faisait, disons, d'une façon manuelle, on est capable de le faire de façon massive et rapide. Mais pour l'instant, c'est juste une reproduction de choses qu'on savait déjà faire. Par contre, on peut essayer de les entraîner pour trouver de façon plus efficace des choses ou des signatures dans les données qui ne sont pas évidentes à trouver. Mais de là à faire une découverte extraordinaire ou nouvelle, je pense, à ma connaissance, ça n'existe pas encore.
Donc c'est juste à tester en fait la performance du système par rapport aux connaissances déjà acquises.
Voilà, en gros. Mais c'est un peu plus subtil que ça. En fait, le gros problème des données en astrophysique, en particulier dans l'évolution de galaxies, c'est qu'il y a une dégénérescence énorme. Donc, c'est-à-dire, nous, on observe des données, mais des théories qui expliquent pourquoi on est arrivé à cette configuration, il y en a plein. Et c'est parce que, en fait, les observables qu'on extrait de ces données, ils sont assez limités. Donc, ce qu'on peut, j'ai utilisé la machine de façon novatrice, c'est-à-dire en générant plein de simulations différentes qui expliquent la même configuration et laisser la machine être capable de séparer entre les différentes, lever les dégénérescences. Par contre, ça, c'est exploratoire encore. Donc,
Elle aurait rendu service à Urbain Le Verrier, qui, lui, par les calculs, a découvert une planète. Donc,
Oui, je pense. Ça devrait sortir rapidement dans les données, par exemple.
Nous accompagnons dans la rue Marc Huertas Compagnie. Thank you. par rapport à ce que vous avez prévu de dire dans le cadre de votre conférence, on a fait un peu le tour ou il y a des choses qui m'ont échappé?
Ben en fait, la conférence est un peu vaste parce que je me disais, il faut que je parle de... C'est quand même une conférence astrophysique, pas d'intelligence artificielle. Donc je vais plutôt parler de l'évolution de galaxies. Donc déjà introduire les notions de galaxies, ce qu'est une galaxie, qu'est-ce qu'on entend par l'évolution et la formation de galaxies d'un point de vue bien concret, c'est-à-dire orienté vers les sondages profonds et les statistiques de galaxies, plutôt l'évolution statistique de galaxies, pour introduire justement en quoi ces techniques peuvent aider. Donc il faut que je quand même parle pas mal d'astrophysique, et la conférence sera essentiellement orientée d'astrophysique, avec des petites touches sur ces techniques d'intelligence artificielle, qui, comme vous le dites, et on l'a déjà dit avant, restent assez limitées pour l'instant, mais qui, à mon avis, sont potentiellement intéressantes, mais on reste toujours dans le potentiellement. Donc la conférence sera essentiellement portée sur l'astrophysique et sur la connaissance de ce qu'on a appris et ce qui nous reste à apprendre sur la formation des galaxies.
Au niveau du recensement des galaxies, on en est où là aujourd'hui?
On a fait pas mal de progrès dans les dernières années justement en ce qui me concerne. Bon, la façon d'aborder l'évolution de galaxies est extrêmement vaste et complexe parce qu'on peut soit aller dans le détail, étudier un objet. Vous savez, une galaxie, c'est un système physique extrêmement complexe. Il y a du gaz, il y a des étoiles, il y a de la poussière, il y a de la gravitation, mais ça dépend des échelles à laquelle on regarde, ben, effectivement, ça change complètement. Donc ce qu'on essaye, ce que moi j'essaye de faire dans ma recherche, c'est plutôt de traiter les galaxies comme un système global qui a un but dans sa vie, c'est de former des étoiles. C'est-à-dire, c'est les unités que l'univers a choisies pour transformer le gaz primordial, disons, ou le gaz qui est l'hydrogène, disons, qui est issu du Big Bang, disons, et c'est les unités que l'univers a choisies pour transformer ce gaz en étoile. Et alors on essaye de décrire justement la vie d'une galaxie, donc consiste à, tout au long de sa vie, depuis ce qu'elle naît jusqu'à ce qu'elle meure, elle crée des étoiles. Et chaque galaxie a sa vie. Et c'est très difficile, donc on peut aller étudier chaque galaxie dans le détail, mais nous, ce qu'on essaye de comprendre, c'est quels sont les points importants dans la vie d'une galaxie qui vont décider comment elle va se dérouler et comment elle va former des étoiles. Est-ce qu'il y a des époques dans sa vie, comme des êtres humains, il y a des périodes où elle est super active, on a la pêche, etc., donc elle va former plein d'étoiles, d'autres périodes où on est un peu plus bas et on est moins actif, elle forme moins d'étoiles. Et ça va dépendre de plein de facteurs, l'environnement dans lequel on bouge, ou est-ce qu'on les autres galaxies qu'on va rencontrer, etc. Voilà, donc on a gagné quelques idées, on connaît à peu près, mais il reste plein d'incertitudes.
Il y en a qui en phagocytent d'autres.
Évidemment, ouais. Il y en a qui phagocytent.
Et nous, on va se faire bouffer. Hein.
Je pense, ouais. On ne sera pas là.
Merci à Marc Huertas Compagnie et à Bernard Talet pour leur libre participation à ce programme réalisé dans le cadre de la 28e semaine de l'astronomie organisée par la Société d'astronomie de Nantes. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure d'interview en marchant dans la rue?
Qu'est-ce que je retiens? Alors c'est ma première fois, c'est une belle expérience. Je retiens que c'est pas facile de répondre aux questions comme ça et que j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises, disons.
Bon, je suis sûr que non.
Je sais pas.
Merci en tout cas.
Merci à vous. Thank you.